Merci d'avoir laissé le beau soleil pour entrer dans cette salle. Personnellement, je ne l'aurais sans doute pas fait si je n'étais pas obligée. Mais, je suis très impressionnée que vous ayez fait le geste. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, le titre pour la conférence « Repenser la lutte contre la pauvreté » et le sous-titre d'un livre qui est coécrit avec mon collègue et aussi directeur de JPAL, Abhijit Banerjee, et qui va paraître aux États-Unis à la fin du mois d'avril et en France en janvier prochain. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est du dernier chapitre de ce livre, en fait, et qui part d'une question qui est un petit peu existentielle pour moi, qui est est-ce que finalement, tout ce travail que je fais depuis une quinzaine d'années et auquel de nombreuses personnes sont associées, qui est l'évaluation des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, donc évaluation de programmes d'éducation, évaluation de programmes de santé, etc. Est-ce que tous ces programmes, est-ce que ça sert à quelque chose d'évaluer vraiment tous ces programmes? Ou est-ce que c'est une goutte d'eau dans la mer par rapport à l'étendue des problèmes qui existent réellement? Donc la majeure partie de mon travail consiste à concevoir ou à aider à la conception et à évaluer des politiques de lutte contre la pauvreté qui ont lieu sur le terrain. Or, il s'agit d'évaluer des politiques, des programmes. Et nous n'avons pas forcément grand-chose à dire, en tout cas on pourrait le dire, sur la politique. Or, ce qu'on a pu constater, par exemple, ces dernières semaines, c'est que les grands événements mondiaux semblent parfois être plus liés à la politique qu'aux politiques économiques. Que c'est la politique ou le politique qui domine les grandes évolutions. On l'a vu, par exemple, au Moyen-Orient depuis quelques semaines. Donc, les grands événements... c'est une opinion que de nombreux experts ont, à la fois des économistes qui travaillent sur l'économie politique ou en sciences politiques, qui est que finalement, ce qui détermine ce qui se passe dans les pays pauvres, c'est la politique. La politique à l'ouest d'abord, au nord, où ce qui détermine ce qui se passe dans les pays du sud, c'est l'attitude de nos gouvernements vis-à-vis des pays du nord. Par exemple, l'Égypte a reçu chaque année, depuis de nombreuses années, près de 2 milliards de dollars d'aide économique américaine, en particulier pour l'aide militaire. Et ce serait assez de 2 milliards de dollars pour verser chaque année 20 dollars pour chaque enfant africain de moins de 5 ans. Et donc il y a forcément un choix qui a été fait de privilégier l'Égypte et le régime qui existait jusqu'à très récemment aux dépens d'autres décisions. Donc ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, la politique au sud, qui est aussi importante, où finalement, là encore, ce sont les attitudes des dirigeants du sud qui sont les déterminants principaux de ce qui va se passer pour les habitants des pays du sud. Par exemple, là, si on avait une idée excellente pour améliorer le taux de vaccination en Côte d'Ivoire, on n'en ferait pas grand-chose en ce moment. C'est clairement pas le sujet. Donc, on pourrait se dire que le type de travail que je fais, qui consiste justement à se poser la question comment améliorer, essentiellement qui consiste souvent à se poser ces questions de ce type, comment améliorer la vaccination des enfants, et finalement, en-delà de ce qui est important, c'est vraiment les petites questions, et ça laisse de côté les grandes questions. Ce n'est pas seulement une question que je me pose moi-même, c'est une question que beaucoup de gens me posent, en particulier donc, Bill Easterly, qui est un grand critique de l'aide, et qui est aussi un critique d'ailleurs des évaluations de projets pour cette raison, dit les évaluations randomisées, qui est le type de travail que je fais, donc qui est concentré sur l'évaluation spécifique de programmes spécifiques, les évaluations randomisées ne sont pas possibles pour la plupart des grandes questions de développement, telles que les effets économiques des bonnes institutions ou des bonnes politiques macroéconomiques. L'adoption de l'évaluation aléatoire a conduit les chercheurs à réduire leurs ambitions. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion sur est-ce que c'est le cas? Est-ce que, finalement, on cherche ces clés près de la lumière, parce qu'il y a de la lumière sous ce lampadaire, mais qu'elles sont peut-être ailleurs, là où il n'y a pas de lumière et qu'il faudrait faire un effort, ou est-ce que finalement ce n'est pas le cas? Cette vision de Bill Easterly, et la vision que je reprends, que c'est le politique qui domine, ce n'est pas une vision isolée du tout. Il y a une vision, il y a un courant institutionnaliste assez fort aujourd'hui en économie politique et en sciences politiques, qui est que la question principale en matière de développement économique consiste à penser principalement l'organisation du processus politique dans ses grandes lignes. Donc d'une part, avec deux idées qui sont tout à fait justes l'une et l'autre, dans une certaine mesure, je vais le dire, que c'est dans une certaine mesure qui va être très important, que si les institutions politiques globales ne sont pas bonnes, il n'est pas possible d'avoir de bonnes politiques publiques. Donc en ce moment, par exemple, pas de bonnes politiques publiques possibles en Côte d'Ivoire. D'autre part, inversement, si les processus politiques sont bons, alors la bonne politique, les bonnes politiques émergeront du processus démocratique, un petit peu comme on espère que du processus de marché évolueront les bons prix, les bons produits, etc. Donc il y a une espèce de parallèle entre l'attitude pro-marché et l'attitude, pro-démocratie, en se disant c'est de ce discours qui émergeront les bonnes politiques. Ce courant, il est personnifié par deux excellents chercheurs qui sont Daron Acemoglu, un de mes collègues au MIT, et Jim Robinson, qui ont un livre qui va paraître aux États-Unis à la fin de cette année, vers novembre ou décembre, et qui paraîtra sans doute en France en suivant, qui s'appelle « Why Nations Fail ?»« Pourquoi les pays échouent ?» Or, leur idée, c'est de mettre l'accent justement sur les institutions, et j'ai écrit les institutions en grand caractère, pour parler des grandes institutions, les institutions en majuscules. Les institutions, ce sont les institutions politiques, comme la démocratie ou l'autocratie, mais aussi le régime des droits de propriété, ce genre de choses, sont pour eux les leviers principaux de réussite de la réussite d'un pays. Or, elles sont extrêmement difficiles à modifier parce qu'il y a une grosse inertie des institutions. Leur argument, par exemple, c'est que des pays comme le Congo, par exemple, qui ont hérité de la période coloniale des institutions d'extraction, puisque les Belges, quand ils sont allés au Congo, avaient comme intention primaire de piller les ressources du Congo et pas de s'y établir. Donc, c'est des institutions qui étaient destinées au pillage, en fait, du pays. Qu'à l'indépendance, ces institutions étaient héritées par les gouvernements. Et qu'une fois qu'on hérite de ces institutions et qu'on se trouve aux commandes de ces institutions-là, ben finalement, c'est bien pratique de les garder. Et donc, il y a peu d'incitations à changer les institutions. Et donc, elles restent comme elles sont. Et cette persistance des institutions, on la constate soit à une échelle un petit peu macroéconomique, à l'échelle de pays entiers, comme quand si on compare le Congo, par exemple, à la Nouvelle-Zélande. On les retrouve aussi à des niveaux même beaucoup plus détaillés, comme par exemple à l'intérieur, si on compare différents districts de l'Inde. L'Inde a été colonisée par le Royaume-Uni de manière progressive. Donc ça a pris plusieurs années, plusieurs décennies même de coloniser l'Inde. Or, les opinions politiques ont varié au Royaume-Uni au long de la conquête de l'Inde. Et donc, il y a une partie de l'Inde qui a été conquise quand au Royaume-Uni dominait une idéologie plus libérale, libérale au sens anglais du terme, c'est-à-dire pour les libertés. Et donc, dans ces cas-là, l'institution de collecte des impôts qui a été mise en place dans les districts indiens qui ont été colonisés à ce moment-là, c'était des institutions qui étaient relativement égalitaires, où chaque personne du village était responsable d'une partie de l'impôt, et donc ça créait une situation égalitaire entre les gens du village. Et puis dans d'autres moments où les Anglais se sentaient plus hiérarchiques dans leur vision de voir les choses, ils ont mis en place au contraire des institutions de collecte des impôts qui étaient fondées sur un système plus presque féodal, où une personne était en charge, qu'on appelle un zamindar ou un grand propriétaire terrien, était en charge de collecter des impôts pour toute la région. Et une fois qu'un district était placé sous un régime ou l'autre, ils l'ont gardé jusqu'à la fin de jusqu'à l'indépendance. Or, à l'indépendance, évidemment, tous ces systèmes ont été abolis pour être remplacés par le système démocratique. Or, aujourd'hui encore, presque un siècle après, on constate que, ou disons trois quarts de siècle après, on constate que les districts qui étaient sous le régime de grands propriétaires terriens de taxation font pire sur tout un nombre de dimensions que les districts qui étaient placés sous le régime plus égalitaire. Leurs systèmes politiques vont moins bien, leur productivité est moindre, l'éducation est plus faible, il y a moins de biens publics, etc. Donc il y a une très très forte, et ça semble être dû à une persistance de rapports sociaux tendus, même dans des endroits qui sont frontaliers par ailleurs, donc ce poids de l'histoire certainement est important. La thèse d'économie d'Élise Huillery montre que de même, un autre type de persistance, les régions africaines qui correspondent à l'ancienne Afrique occidentale française, qui était placé sous un administrateur qui a dépensé plus en éducation pendant la période coloniale, aujourd'hui ont plus d'éducation. Les personnes qui sont dans un district où l'administrateur colonial a dépensé plus de santé, aujourd'hui ont de meilleures performances de santé. Donc cette persistance, de fait, elle existe. Alors, est-ce que ça veut dire toute cette persistance des institutions, ce poids du passé qu'on est quand on est un pays pauvre qui a l'histoire coloniale qu'il a, qu'on est coincé dans une situation dont il est difficile de sortir. Alors plusieurs auteurs se sont penchés sur cette question. Paul Romer, qui est un économiste de la croissance, a une idée qui paraît un petit peu étrange, qui est de dire ben voilà, si vous avez de mauvaises institutions, prenez donc une partie de votre pays. Et sous-traitez-le à un pays qui a de bonnes institutions, par exemple la Hollande ou la Norvège, et ils pourront s'occuper de gérer cette bande de terrain comme vous, comme une ville libre, de même que les Anglais l'ont fait à Hong Kong pour plusieurs décennies. Alors effectivement, il y a un certain nombre de problèmes avec cette idée. La première, c'est que c'est pas clair que qui que ce soit ait vraiment envie de céder une partie de son pays pour être en contrat de sous-traitance avec la Norvège. La deuxième, c'est que ce n'est pas du tout clair que la Norvège ait envie de prendre le contrôle d'un bout de terrain. Surtout que c'est très difficile de signer un contrat complet, dès que ça ira un petit peu mieux, de ne pas se faire envahir par le reste du pays. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de preneur de cette idée. Donc, on passe à une version un petit peu plus volontariste de la même idée, qui est prise tout à fait explicitement par Paul Collier, qui est un ancien de la Banque mondiale, qui est aujourd'hui à l'université de Oxford, qui a écrit un premier livre qui s'appelant « Le Bottom Billion », le milliard d'en bas, puis un deuxième livre s'appelant « Il y a une histoire de fusil dans le titre », je ne me souviens plus trop bien, qui dit bah oui, au besoin, si les pays ont, il y a des pays dont les institutions sont tellement catastrophiques qu'ils constituent le milliard du bas. Les gens qui habitent dans ces pays n'ont aucune chance de s'en sortir si on ne les aide pas à instituer de meilleures institutions au besoin en les envahissant. Donc il cite comme exemple l'exemple du Sierra Leone, où les Anglais sont intervenus pour faciliter le processus de transfert démocratique. Ça aussi, c'est une idée qui a des problèmes, en particulier, on l'a vu avec l'expérience américaine en Irak, c'est que quand on arrive dans un pays avec l'intention de reconstruire des institutions à partir de zéro, c'est très difficile. Il y a un livre qui est absolument passionnant d'un journaliste qui a passé 2 ans en Irak après quand les jeunes Américains, tout frais sortis de leurs universités, sont venus pour essayer de construire une nouvelle bourse, un nouveau code du droit de propriété, etc. Et ils ont eu beaucoup de mal. On ne peut pas dire qu'ils y soient vraiment arrivés. Donc, il y a des gens qui prennent la position opposée à ça, en disant qu'on ne peut absolument pas essayer de faire le bonheur des gens malgré eux. Il faut les laisser à leur liberté. Donc, c'est la position, par exemple, de Billy Sterley, qu'on a cité auparavant. On ne peut que laisser tranquilles les pays et puis les gens à l'intérieur des pays. à liberté économique, donc c'est Easterly est très très pro-capitaliste, presque libertarien, à liberté et liberté politique. Et comme il n'est pas possible d'imposer la liberté d'en haut, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre et espérer qu'ils pourront trouver leur propre voie. Alors, est-ce qu'on est... alors, Acemoglu et Robinson, dans le livre dont je parlais, Why Nation Fails, sont assez proches d'Easterly, en quelque sorte, puisqu'ils disent, oui, c'est très difficile à prévoir qu'est-ce qui va faire sortir les institutions de cette inertie. Les institutions ont un poids très fort, elles ont beaucoup de mal à évoluer, elles évoluent de temps en temps, on est peut-être en train de le voir aujourd'hui dans tout le Moyen-Orient, mais ça arrive dans des situations de manière imprévisible, dans des situations de révolution, peut-être comme ce qui est en train de se passer en ce moment. Ils citent deux exemples qui reviennent dans leur livre très fréquemment, la Révolution glorieuse en Angleterre et la Révolution française. Le fait que ces deux exemples datent de 200 ans n'est pas extrêmement favorable. Donc quand on lit, quand on lit toute cette littérature, mon opinion finalement sur la possibilité en tout cas de comprendre, de prédire, de favoriser des changements institutionnels en bloc comme ça, est plutôt proche d'Acemoglu et Robinson. On ne sait pas très bien ce qui les provoque. Je crois que même la CIA, dans ses métiers, voyait très très mal arriver l'Égypte, et on sait la situation de la France et de la Tunisie, alors que la Tunisie est à nos portes. Donc si on ne peut pas très bien comprendre ce qui se passe, on ne peut ni l'imposer de l'extérieur, ni même comprendre quelles sont les conditions qui favoriseraient un passage à une des meilleures institutions dans les pays du Sud, est-ce que on abandonne, on arrête, on s'attriste, on dit c'est dommage, vous êtes né dans le mauvais pays et attendons de voir ce qui va se produire, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose de plus? Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a en fait beaucoup, beaucoup plus de marge, que même si c'est vrai que les grandes institutions, les institutions en capital, en lettres capitales, sont difficiles à faire évoluer et évoluent de manière presque autonome, avec une convergence de foule qu'on comprend mal, il y a en fait beaucoup plus de marge de manœuvre que nous pensons dans le jeu politique lui-même, et que même si on fixe les règles du jeu politique, il y a aussi beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on le pense pour la définition des politiques à l'intérieur d'un ensemble d'institutions données, et donc une très forte latitude. Donc je vais essayer de parler en trois temps. D'abord de montrer qu'il y a énormément de marges dans le jeu politique, qui sont peut-être que finalement la politique, quand on passe des grandes institutions au fonctionnement de détail des institutions, la politique est quelque chose qui n'est pas tellement différent de l'éducation ou de la santé, etc. Il y a tout un certain nombre de règles qui ont des aspects, qui ont des effets importants et qui peuvent être changées. Et ensuite, je montrerai qu'à l'intérieur du jeu politique, il y a des latitudes énormes pour faire des progrès pour de meilleures politiques publiques. Et enfin, que les meilleures politiques publiques peuvent elles-mêmes jouer un rôle pour l'amélioration de la politique. Et que donc, on pourrait presque renverser le rapport de dominance sur lequel je suis partie, où le politique domine les politiques, et se demander si ce n'est pas le contraire, où les politiques influencent le politique. Alors commençons par le premier temps. Est-ce qu'il y a du progrès possible à l'intérieur d'institutions qui sont elles-mêmes fixées? Alors j'ai cette sous-section, on peut l'appeler institution en lettres capitales ou institution simplement en petites lettres. Les institutions en lettres de capital, elles se disent, bon, c'est la démocratie ou c'est l'autocratie, il y a des grandes règles du jeu. Mais à l'intérieur de ça, il y a énormément de variations qui ont une grande importance. Ce qui veut dire deux choses. Ce qui veut dire que même dans des systèmes qui seraient, disons, autocratiques, par exemple, ou pas démocratiques, il y a aussi des marges de manœuvre pour instituer une certaine... il y a des progrès à la marge qui peuvent se produire, on verra qu'ils peuvent être importants. Et ensuite, dans des institutions qui sont en général à peu près correctes, par exemple des institutions démocratiques avec une liberté de la presse, etc., il y a aussi énormément les règles spécifiques selon lesquelles la démocratie marche, par exemple, les élections se produisent, les débats se produisent, ont aussi un effet sur les résultats dans les pays. Alors commençons par le premier volet. Il est vrai, comme tout le monde l'observe, qu'il est rare, pas inconnu, puisqu'on est en train de le connaître en ce moment peut-être, mais rare de voir des changements institutionnels en bloc, où on passe d'un pays, d'une autocratie à une démocratie par exemple, que ça se produit dans des situations assez exceptionnelles, et qu'il est certainement difficile de les prédire, impossible de les provoquer de l'extérieur. Mais par contre, ce qu'on a observé dans l'histoire à de nombreuses reprises, ce sont des changements démocratiques progressifs qui prédatent de grands changements démocratiques et qui introduisent une mesure de démocratie à l'intérieur de régimes non démocratiques. On l'a vu en Indonésie, sous Suharto, au Brésil, sous les militaires, avant la restauration de la démocratie, au Mexique, en Chine, et même, et c'est important pendant le futur, même au Yémen, en Arabie Saoudite, dans les années précédentes, et il n'est pas complètement exclu, c'est un petit peu préparé, des choses qui pourraient se produire aujourd'hui. Or, en général, ces élections qui existent, il y a certaines élections qui sont introduites localement, par exemple, au niveau du village ou au niveau de l'équivalent d'un département français. La Chine, par exemple, a introduit le vote pour élire ses dirigeants locaux dans certains endroits et pas dans d'autres. En Chine, ces élections sont extrêmement imparfaites. Souvent, la liste des candidats est fournie par le parti, les votes ne sont pas anonymes, il n'y a pas de respect du secret du vote, etc. Donc, on pourrait dire que ces élections sont finalement complètement des élections de façade, qui ne correspondent à rien, que c'est juste c'est juste du bluff. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il semble finalement pas que ce soit le cas, bien que ces élections soient extrêmement imparfaites. Il y a une étude de Nancy Chen et Gérard Padro et Miguel qui regardent ce qui se passe dans des villages qui commencent à introduire la démocratie. Comme ça a été introduit progressivement, on peut comparer au cours du temps un village avant et après qu'il ait introduit la démocratie. Et ce qu'on voit, c'est que les décisions qui sont prises par des leaders qui sont élus sont des décisions qui correspondent davantage aux préférences locales. En particulier, une grosse question en Chine, c'est la politique de l'enfant unique. Et la politique de l'enfant unique a plus de chances d'être assouplie dans des régions où les dirigeants sont élus que dans les régions où ils sont nommés. Autre exemple, la redistribution des terres. En Chine, les terres sont allouées, il y a des redistributions régulières des terres. La redistribution des terres agricoles a plus tendance à profiter aux fermiers des classes moyennes qu'aux grands fermiers, etc., etc. Donc, on peut dire que c'est un tout petit changement qui ne va pas libérer les militants des droits de l'homme en Chine, etc. Et pourtant, ça a aussi des effets réels. Autre exemple d'une possibilité de changement à l'intérieur de régimes, à la marge, mais de changements qui ont néanmoins des effets réels, c'est un des gros problèmes institutionnels des pays en développement, à part la démocratie, c'est l'importance de la corruption, en particulier de la corruption au sommet. Et l'Indonésie est peut-être un des exemples les plus importants, en particulier l'était sous Suharto, mais même aujourd'hui, l'Indonésie est à peu près 120e sur 150 pays qui sont rangés par Transparency International. En Indonésie, il y a eu une expérience qui a eu lieu par Ben Olken, essayons de regarder est-ce que ça pourrait avoir un effet d'augmenter d'augmenter le nombre d'audits auxquels sont soumis les entrepreneurs qui construisent les petites routes locales. Il y a une très très forte corruption, fausses factures, vol de matériaux, emplois fictifs, etc. dans la construction des vols locaux. Il estime qu'à peu près 27% du budget d'une route est volé en moyenne, pour les petites routes locales. Et donc il fait une expérience toute simple qui consiste à annoncer aux entrepreneurs que leurs comptes seront vérifiés une fois dans l'année, avec certitude. Or, leurs comptes sont vérifiés par qui ? Ils sont vérifiés par les mêmes auditeurs, les mêmes employés du gouvernement qui seront toujours aussi corrompus. Donc on pourrait se dire, ça ne marchera jamais de faire ça, puisque c'est qui va monitorer les moniteurs ? Et en fait, il se trouve que ça marche, puisque les vols de matériaux passent de 27% à 18%. Donc on peut, comme ça, faire des changements à la marge, un petit peu de démocratie par là, un petit peu de contrôle par ici, même si on n'arrive pas à tout changer d'un coup. Peut-être encore plus important pour ce qui nous préoccupe, c'est que les institutions en lettres capitales, la démocratie par exemple, la décentralisation, etc., ne sont pas une garantie que la manière dont elles s'incarnent sur le terrain est la plus efficace possible et la plus juste possible. Parce que la manière dont la démocratie s'incarne sur le terrain, ça devient extrêmement concret, ça devient qui a le droit de voter, est-ce que c'est obligatoire de voter ou pas, comment sont organisées les élections, est-ce que c'est un suffrage à majorité, comme les cantonales par exemple, avec à deux tours, est-ce que c'est un système proportionnel, comment les votes sont comptés, etc. Or, ce genre de règles, elles ont une influence importante sur le jeu politique. Plus importante qu'on ne le pense peut-être. Et je vais vous donner un exemple intéressant, c'est un exemple du Brésil. Le Brésil aujourd'hui est une très très grande démocratie avec un pouvoir tout à fait favorable aux pauvres, etc. Donc on peut penser qu'il n'y a pas de conspiration, grande conspiration contre les pauvres pour faire en sorte qu'ils ne votent pas au Brésil. Et pourtant, le système électoral dû à la manière dont il est organisé était jusqu'à très récemment extrêmement compliqué. Donc, si vous voulez voter au Brésil, vous devez faire la chose suivante. Alors, ça, c'est un bulletin de vote qui sert à deux élections. Donc, déjà, c'est un petit peu compliqué d'avoir un bulletin de vote pour deux élections. Mais en plus, donc, vous avez une élection pour les préfets et une élection pour les vereadores. Alors, pour les préfets, il suffit que vous preniez votre stylo et que vous cochiez la case de la personne que vous voulez, pour laquelle vous voulez voter. Jusque-là, tout va bien. Mais si vous voulez voter pour un vereador, il faut que vous écriviez le nom du candidat, sans faute d'orthographe, ou son numéro, il y a un numéro, ils ont des numéros comme ça, ou son numéro de candidat. Donc, dans un pays où 35% des adultes ne sait pas lire, déjà de cocher, c'est difficile, mais alors d'écrire, c'est encore plus difficile. Et le résultat, c'est que jusqu'à 11% des votes, le vote est obligatoire au Brésil, mais jusqu'à 11% des votes étaient annulés. On pourrait penser que la plupart étaient annulés, pas parce que les gens avaient décidé de voter blanc, mais parce qu'ils ont fait une faute d'orthographe, ou ils ont mal compris, ou ils ont mis un numéro qui n'existait pas, etc. Donc voilà la situation dans laquelle on était au Brésil jusqu'à relativement récemment. Face à la multiplication des candidats, etc., pour essayer d'améliorer la rapidité avec laquelle les votes étaient comptés, le Brésil a instauré un système de vote automatique avec des petites machines à voter, comme celle-là. Donc c'est un compte sur une banque, là, un distributeur de billets. Vous écrivez le code du candidat. Donc si vous écrivez 92111, la photo de monsieur Monteiro Lobato apparaît, son nom et son parti. Donc vous pouvez valider la personne si vous voulez voter pour elle, ou vous pouvez corriger si en fait ce n'était pas la personne que vous vouliez. Et si vous mettez un numéro qui ne correspond à personne, ça va écrire vote invalide. Donc vous pouvez, avec une grosse croix à la place de la photo, donc vous pourrez vous rendre compte qu'il faut que vous corrigiez votre vote. Et ça n'a été pas mis en place pour aider les pauvres à voter. Mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est la chose suivante. Je vais vous expliquer comment marche ce dessin. La réforme a été mise en place progressivement. D'abord dans les villes de plus de 400 000 habitants, ou plus de 400 000 électeurs, puis dans toutes les villes. Ce qu'on a ici, c'est le nombre de votes valides, le nombre de votes qui, de fait, n'ont pas été invalidés, en vert dans l'élection précédente, dans l'élection de 1994, avant que cette réforme soit introduite, Et vous voyez que à peu près entre 65 et 70% des votes sont valides, quelle que soit la taille de la municipalité. Ensuite, en bleu, vous avez le nombre de votes valides en fonction de la taille de la municipalité ou de la taille du nombre d'électeurs. Et vous voyez qu'à 400 000, qu'à 40 000, on a un bond où le nombre de votes valides, tout d'un coup, passe de, donc, autour de 72% à presque 90%. Et comme on peut penser qu'il n'y a rien d'autre qui est spécialement différent entre 39 999 électeurs et 40 000 plus 1, on peut penser que c'est de fait dû à l'introduction des machines. Et ce qu'il confirme, c'est qu'à partir de 2002, les élections électroniques ont été introduites partout. Et là, on a le trait rouge où le nombre de votes valides, quelle que soit la taille de la municipalité, était autour de 92-93%. Donc, ce petit changement technique s'est traduit en un changement de la prise en compte des votes. Effectivement, les gens qui ont plus de chances d'avoir leur vote invalide étaient plutôt des gens qui étaient plus pauvres, parce que c'est lié au fait qu'ils ne savaient pas lire. Et donc les personnes qui ont été élues ont elles-mêmes plus de chances de venir de catégories pauvres ou de représenter les intérêts les plus pauvres, donc des partis de gauche, etc. Et les politiques qu'ils ont suivies sont aussi plus favorables aux pauvres. En particulier, on a dans les municipalités qui ont introduit le changement avant les autres, on voit une augmentation des dépenses de santé entre 1994 et 2008, qu'on ne voit pas dans les autres municipalités. Et après, tout le monde, les dépenses de santé augmentent partout. Donc il semble bien que cette réforme, qui est une réforme, on pourrait dire, purement technique, ait quand même pour conséquence de redonner une place politique à 10% de l'électorat parmi les plus pauvres, changeant ainsi la nature, la caractéristique des gens élus et la nature des politiques. Ce qui montre que ce qui est un exemple parmi beaucoup d'autres, qui montre que la politique n'est pas tellement différente d'autres choses. L'organisation du politique, c'est aussi une organisation qui demande de réfléchir à ce qu'on fait dans les détails. Deuxième chose dont je voulais parler, qui est un petit peu à mi-chemin entre l'introduction des élections dans des pays pas du tout démocratiques comme la Chine ou l'introduction de machines qui conduisent à améliorer la prise en compte du vote des pauvres dans une grande démocratie comme le Brésil, qui est le problème du vote tribal ou du vote ethnique ou du vote par caste. Beaucoup d'observateurs politiques trouvent que finalement, la démocratie fonctionne mal dans les pays du Sud parce qu'il y a une prépondérance du vote pour le groupe ethnique, pour la région, pour la caste, etc. Leonard von Schicken est un professeur de sciences politiques à New York University. Et Leonard von Schicken vient du Bénin. Il était extrêmement actif pendant les révoltes d'étudiantes qui ont conduit à l'instauration de la démocratie au Bénin. De ce fait, il connaît tout le monde au Bénin, ce qui lui a permis de réaliser deux expériences, une dont je vais parler maintenant et une dont je parlerai tout à la fin de cette conférence. Et ces deux expériences illustrent très bien deux aspects de cette question du vote ethnique. Alors, commençons par la première. La première, c'est la chose suivante. Comme il connaît tous les partis politiques du Bénin, il les a convaincus pendant une élection présidentielle. Il a convaincu des gens des quatre partis qui avaient un candidat en principe qui pouvait au moins faire un bon score au premier tour, de faire l'expérience suivante dans quelques circonscriptions qui leur étaient déjà acquises. De choisir des villages et de faire des meetings politiques de manière un petit peu différente. Donc, dans la moitié des villages, le meeting politique était à teneur, disons, clientéliste. Le message électoral était clientéliste. Donc, voilà le message, un exemple pour un des candidats. Nous sommes les porte-parole de Saka Lafia, qui se présente aux élections du 3 mars 2001. Comme vous le savez, Saka est le seul candidat Barba et le premier depuis 1960. Saka se présente car la région du Nord-Est est sous-développée, taux d'alphabétisme faible, infrastructure et centres de santé très pauvres, etc. S'il est élu, il représentera les intérêts de la région de Borgou-Aligari en construisant des écoles, des hôpitaux et des routes, et surtout en engageant des Bariba dans l'administration. Donc c'est un appel pas très subtil à la solidarité ethnique. Dans d'autres villages, donc choisis au hasard, donc assez similaires, le discours qui a été prononcé dans le même type de meeting électoral, c'est différent. Nous sommes les porte-parole de Saka Lafia. USD, notre parti, défend la démocratie et la solidarité nationale. Saka se présente comme le candidat de l'opposition. S'il est élu, il engagera une réforme nationale du système d'éducation et de santé publique qui mettra l'accent sur la construction d'écoles et d'hôpitaux et sur les campagnes de vaccination. En accord avec d'autres leaders de l'opposition, nous lutterons contre la corruption et pour la paix entre tous les groupes ethniques et toutes les régions du Bénin. Donc ça, c'était un discours effectivement beaucoup plus universaliste, etc. Alors, qui gagne? Eh bien, malheureusement, c'est effectivement le vote clientéliste qui appelle donc au vote ethnique, qui remporte plus de suffrages. Je vous le rappelle, c'est des circonscriptions très très sûres, donc de toute façon, une très grosse majorité va à Saka Lafia. Mais on passe de 60% de vote en faveur de Saka Lafia avec le message public policy, le message généraliste, versus 78,5% dans les endroits où le message était plutôt clientéliste. Alors quand on voit des choses comme ça, on pourrait justement se désespérer et se dire voilà, c'est une des raisons pour lesquelles il est très difficile de faire des progrès dans les pays du Sud, puisque la démocratie conduit à ce genre de choses. Ce n'est pas quelque chose qui est africain exclusivement, on le retrouve dans de nombreux endroits, et en particulier on le retrouve en Inde. Or, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que... Donc ça, c'est une question de niveau. On sait qu'aujourd'hui, enfin, en 2001 au Bénin, les gens avaient plutôt tendance à voter pour quelqu'un qui faisait appel à leur instinct de groupe. Est-ce que ce vote ethnique est une fatalité ou est-ce qu'il est très ancré dans la perception des gens ou est-ce qu'au contraire, il est assez facile à faire bouger? Une question dont, à laquelle je réfléchis assez sérieusement pour la France aujourd'hui. Ce qui me rassure sur la situation possible, la situation en France, mais peut-être, c'est que c'est une expérience qui a été conduite, et donc on commence à avoir les résultats. Et voilà juste un exemple particulier qui est dans l'état de l'Uttar Pradesh en Inde. L'état de l'Uttar Pradesh, c'est le plus grand état de l'Inde, ça correspond à trois fois la France en termes de nombre de gens. Et c'est un état qui est si corrompu qu'un grand nombre de députés font l'objet de poursuites pénales. Beaucoup d'observateurs lient l'augmentation de la corruption en Uttar Pradesh à une augmentation du vote de caste, où on voit de plus en plus de gens voter pour des partis qui représentent des partis de caste. La ministre en chef de l'Uttar Pradesh est d'ailleurs une jeune femme qui représente les basses castes, qui représente un parti de basses castes. Donc il y a eu un travail qui a été fait par des économistes et des professeurs de sciences politiques, dont mon co-auteur Abhijit Banerjee et d'autres, en Uttar Pradesh, ou pour les élections justement où cette dame a été élue, qui travaillaient avec une ONG, ou une série d'ONG, qui sont allés dans des villages avec, pour faire des meetings avec les gens, pas des meetings partisans, pas des meetings politiques en faveur d'un parti ou d'un autre, mais des meetings, disons, d'éducation générale, avec le message suivant, message très simple, ne votez pas en fonction de la caste, votez en fonction des vrais problèmes. Donc c'était le message, et la manière dont ce message passait, c'était avec... une pièce de théâtre jouée par les enfants, une pièce de théâtre pour les enfants, une chose de marionnette et des discours. Or, donc c'était un message qui exhorte les gens à réfléchir en fonction des vrais problèmes et pas en fonction des groupes de caste, mais qui n'avait pas de contenu spécifique. Or, rien que ce message fait passer le vote ethnique dans les endroits où ce type de meeting ont eu lieu, les ONG ont travaillé, de 25 à 18%, alors qu'on passe, que c'était 25% des endroits où ces organisations ne sont pas allées. Ces organisations ont choisi les endroits où aller au hasard, donc on sait qu'il n'y a pas d'autre différence à part les meetings. Donc, on voit que si c'est possible de faire une chose comme ça, c'est-à-dire d'aller voir les gens et de leur dire qu'il faut voter en fonction des problèmes, pas en fonction de la caste, il semble que ça veuille dire qu'en Uttar Pradesh au moins, on reviendra au Bénin un petit peu plus tard, en Uttar Pradesh au moins, les gens ne sont pas très très attachés à leur vote ethnique. Ils votent, donc pourquoi dans ce cas-là votent-ils en fonction du vote ethnique? Eh bien c'est possible que ce soit parce qu'il manque d'éléments d'information qui leur permettent de décider selon d'autres critères. Donc si vous pensez que tout le monde est corrompu de toute façon, et que personne, aucun des hommes politiques ne va travailler pour vous en réalité, eh bien, il vaut mieux voter pour un voleur de votre propre groupe qu'un voleur de l'autre groupe. Ce sera toujours ça de prix si vous pouvez prendre quelques miettes au passage. Donc, si c'est le cas, ça justifie, ça laisserait penser que donner aux gens plus d'informations sur leurs dirigeants et sur la manière dont ils ont dirigé jusqu'à maintenant, pourrait influencer le vote et l'influencer dans une direction qui conduise les gens à voter plus en fonction des vrais problèmes et moins en fonction de l'identité de caste de quelqu'un, par exemple. Donc c'est une expérience qui a été tentée aux élections suivantes à New Delhi. New Delhi, juste pour que vous voyez l'échelle auquel on parle, New Delhi, c'est plus grand que la Suède, la Norvège et le Danemark pris ensemble. Donc c'est quand même c'était très très grand, il y a beaucoup beaucoup de monde, donc pensez à cette échelle-là. L'Inde a une institution qui s'appelle le droit à l'information, c'est un acte qui s'appelle le droit à l'information, donc chaque personne ou une ONG, n'importe quel membre de la société civile peut demander à obtenir des informations sur la vie publique. Donc, par exemple, vous pouvez demander, utiliser le droit de l'information pour obtenir des informations sur à quel est-ce que votre député est allé à l'Assemblée, est-ce qu'il a voté, pourquoi il a voté, les dépenses, etc. Effectivement, c'est un petit peu difficile à naviguer, donc les individus, les citoyens eux-mêmes le font rarement. Mais il y a des organisations qui se spécialise un petit peu dans faire l'effort d'obtenir, donc c'est une poursuite, c'est une demande administrative, de faire cette demande administrative, obtenir les informations et les présenter de manière simple et lisible pour les gens. Et donc cette organisation a collaboré avec un grand quotidien, qui chaque jour faisait une, pour chaque circonscription de Delhi, présentait le candidat sortant, des informations sur lui. Est-ce qu'il y a une charge criminelle contre lui? Est-ce que quels sont l'état de quel est son patrimoine? Et surtout, quelles ont été ses décisions pendant qu'il était au pouvoir avant? Or, ensuite, donc, ces journaux ont été distribués pour l'expérience, ont été distribués gratuitement dans certains bureaux de vote. Donc pour chaque candidat, la moitié des bureaux de vote étaient, les gens recevaient les journaux chez eux gratuitement, et pour l'autre moitié, donc on compare ce qui se passe dans la situation normale. Et les résultats, là encore, ont été très très clairs, c'est-à-dire que quand les journaux ont été distribués, dans les endroits où les journaux ont distribué, les gens ont plus voté pour les dirigeants dont l'action avait été favorable, et qui avaient moins de chances d'être corrompus, etc., et moins pour ceux qui étaient corrompus. Donc on voit que les gens de Delhi répondent à l'information quand elle est proposée de manière lisible. Alors on pourrait dire, oui c'est bien, mais c'est une expérience, c'est juste une expérience, est-ce qu'on pourrait vraiment faire ça à grande échelle? Ou est-ce que le jour où on fait ça à grande échelle, il y aurait un tollé de la part des hommes politiques, ils s'assureraient que ça ne se passe pas, ils tricheraient sur les rapports ou quelque chose comme ça. Et pour répondre à cette question, on peut se tourner à nouveau vers le Brésil, qui est un pays qui a mis en place une politique de ce type au niveau national. Donc au Brésil, tous les mois, une grande loterie qui se produit à la télévision, donc c'est comme le loto, à part que dans ces urnes-là, les jeunes filles font tourner la grande roue pour sélectionner 60 municipalités. Une municipalité correspond à une région qui est c'est plus gros qu'une ville, mais donc c'est une ville et sa périphérie. 60 municipalités sont choisies chaque mois et leurs comptes sont audités. Leurs comptes sont inspectés par l'équivalent de la Cour des comptes. Les résultats de ces audits sont transmis très largement, sont transmis au gouvernement et très largement relayés par la presse, ainsi que sur l'Internet. Deux chercheurs brésiliens, enfin un chercheur brésilien et demi, parce que Frederico Final est à moitié brésilien, à moitié américain, ont analysé l'impact de ces audits sur les résultats électoraux. Et la meilleure moyen de voir ces impacts, c'est de regarder, de regarder les résultats sous forme visuelle. Ce qu'on voit sur ce dessin, c'est la probabilité d'être réélu en fonction du nombre de violations ou d'actes de corruption qui ont été constatés dans le rapport d'audit. En bleu, vous avez les municipalités pour lesquelles les audits ont eu lieu après les élections. Donc les électeurs n'avaient pas sous la main l'information au moment où ils ont fait leur choix. Et là, vous voyez que le nombre de violations n'a pas d'impact sur le vote. Ce qui signifie que pour les électeurs, il n'y a pas vraiment d'autre moyen de percevoir que la personne est corrompue. En rouge, vous avez les municipalités où les audits ont eu lieu avant les élections. Et là, en revanche, les électeurs avaient l'information à leur disposition. Et ce qu'on voit, c'est que plus vous avez reçu, plus il y a de violations dans votre rapport, plus vous êtes corrompu, moins vous avez de chances d'être réélu, avec des effets qui sont quand même très importants, puisqu'ils passent de 55% de chances d'être réélu pour quelqu'un qui n'a aucune violation à 20% pour quelqu'un qui a été démontré être particulièrement corrompu avec 3 actes de violation. Donc, ça conclut ce dessin, donc conclut ma première partie, qui est finalement, il n'y a rien de magique avec la politique. La politique, c'est comme l'éducation, c'est comme la santé, c'est comme la lutte contre le changement climatique. Ça demande de réfléchir à ce qu'on fait de manière précise. Et il y a un impact important du détail, de comment les choses se passent dans le détail, sur le terrain. Et les grands principes, démocratie ou pas démocratie, etc., sont importants, effectivement, parce qu'ils fixent un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, on peut aller du meilleur au pire assez facilement. Et donc, on peut améliorer la politique de manière incrémentale, petit pas par petit pas, de la même manière qu'on pourrait améliorer la lutte contre l'exclusion sociale de la même manière. Deuxième pan, c'est la question justement de la définition des politiques, non pas de la politique, mais des politiques. Est-ce qu'il est vrai que si les institutions sont mauvaises, s'il n'y a pas de démocratie, même pas de démocratie locale, etc., de toute façon, les politiques seront mauvaises, donc il n'y a rien à faire. Ce n'est même pas la peine d'essayer de réfléchir à ce que pourrait faire un gouvernement comme celui du Zimbabwe, puisque de toute façon, ils ne le feront pas. Et inversement, quand un pays est démocratique, il y a des institutions qui fonctionnent bien, la bonne politique finira par émerger. Et donc, ce que je voudrais démontrer, c'est que ni l'une ni l'autre de ces propositions ne sont correctes. La première, c'est donc la question est-ce qu'il y a des marges de manœuvre dans des environnements qui sont généralement défavorables ? Alors, on peut revenir à l'Indonésie sous Suharto. J'ai déjà parlé de l'Indonésie en parlant de c'est là où les audits sur les routes ont réduit la corruption dans les routes, donc ça pourrait être un exemple. Mais un autre exemple qu'on constate dans l'Indonésie de Suharto, c'est Suharto qui a décidé qu'il dépenserait l'argent du pétrole en construisant des écoles. Et ces écoles ont conduit à une augmentation importante de la scolarisation qui s'est ensuivie par une augmentation des salaires, une réduction de la mortalité infantile, une réduction de la fertilité, etc. etc. Donc même un dictateur est finalement parfois peut prendre une décision et se dire, bah, à ce moment-là, ça m'arrange à peu près de faire plutôt une chose efficace pour les gens qu'une chose pas efficace, et donc je vais le faire. Et donc, il y a des marges de manœuvre d'amélioration de la politique, même dans des environnements qui ne sont pas favorables. Mais ce qui est encore plus important, c'est l'aspect inverse. C'est le fait que même dans des, dans des environnements qui sont généralement favorables, aux citoyens, et donc favorables peut-être aux plus pauvres, il y a un certain nombre de politiques économiques qui sont simplement de mauvaises politiques économiques, et ces mauvaises politiques économiques ne sont pas le résultat d'une grande conspiration contre les pauvres, elles sont le résultat du fait qu'on n'a pas assez bien réfléchi à comment les politiques économiques, comment ces politiques, quand je dis politique économique, c'est aussi politique sociale, politique d'éducation, etc., devaient s'articuler. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre livre le trio idéologie, ignorance, inertie, où les politiques sont définies dans des bureaux, dans les capitales ou peut-être avec des consultants internationaux qui donnent des idées sur la base d'une idéologie, dans une complète ignorance des problèmes de terrain, et ensuite persiste simplement parce que ce qui est là a tendance à persister dans son être, et donc persiste à cause de l'inertie. Et je vais vous donner un exemple qui est un exemple qui me tient assez à cœur, qui est le problème de l'absentéisme dans les centres de santé primaires. Les centres de santé, dans la plupart des pays pauvres qui essayent de faire quelque chose pour la santé de leurs citoyens, le système est organisé de la manière suivante. C'est un système qui a trois étapes. Il y a des centres de santé primaires très proches des gens, pour que les gens n'aient pas besoin de marcher, etc., où il y a une infirmière qui ne peut pas faire grand-chose, qui donne un petit peu, qui donne la vaccination, qui peut-être un petit peu des anti-paludéens, oral rehydration solution pour lutter contre la diarrhée. Si la personne est vraiment malade, elle est envoyée à un centre de santé un petit peu plus loin, qui est un centre de santé primaire. Et ensuite, si elle est vraiment malade, elle est envoyée à l'hôpital. Donc c'est en trois étapes. En principe, c'est idéal. Ces infirmières seraient donc le premier point de contact pour les gens assez proches d'eux, pour leur faire à la fois l'éducation à la santé, l'accès aux soins préventifs, etc., etc. Donc, à un certain niveau sur le papier, c'est parfait. Un pays comme l'Inde a mis en place ce système. À un certain niveau, c'est parfait. Il y a même dans les endroits assez reculés, etc., il y a un centre de... Il y a une infirmière qui a un petit centre, ils appellent ça des sub-centers, un sous-centre de santé à peu près à 2 ou 3 km de marche de chaque maison. Et ensuite, un centre de santé un petit peu plus important à une dizaine de kilomètres, puis un hôpital dans le district. En pratique, ce système ne fonctionne absolument pas. Et il ne fonctionne absolument pas non seulement en Inde, mais dans de nombreux pays où il est construit de la même manière. Il y a eu une étude de la Banque mondiale qui a regardé l'absentéisme dans ces centres de santé, et l'absentéisme est absolument ahurissant, où quand les infirmières sont absentes entre 40 et 60% du temps aux heures d'ouverture du centre. De ce fait, les centres sont très peu utilisés, et ça, c'est un des facteurs, un des facteurs qui conduit à une sous-utilisation des soins préventifs, comme la vaccination, et à une surutilisation des soins curatifs, comme les antibiotiques, etc., qui sont donnés par des gens qui sont là pour répondre à cette demande qui n'a pas d'offre, qui sont en général des gens qui s'improvisent docteurs et qui vous donnent les antibiotiques que vous voulez. Alors, pourquoi ce système fonctionne-t-il si mal, et est-il possible de le changer? Alors, avant de répondre, de dire pourquoi je pense que ce système, mon hypothèse aujourd'hui sur pourquoi ce système fonctionne mal, Je vais vous donner un exemple où le gouvernement, donc le gouvernement local, l'administration locale, essaye de faire quelque chose pour que le système fonctionne. On part du principe que peut-être que si les infirmières sont absentes si souvent, je tiens à dire que les infirmières sont des gens qui sont bien éduqués, donc bien payés. En tout cas, c'est le cas en Inde, elles sont plutôt très bien payées. Mais elles habitent en général en ville, loin de leur centre de santé. Donc il faut qu'elles prennent le bus pour y aller, etc. Ce qui peut expliquer pourquoi elles n'ont pas très envie d'y aller très souvent. Donc le dirigeant d'un district de l'Inde, un district du Rajasthan, a décidé de les obliger à venir dans leur centre au moins le lundi. Donc, c'est pas forcément très très exigeant au départ, mais enfin, pour commencer par là. Donc on parle de cette idée du lundi. Donc la manière dont ça a été vérifié, c'était de donner des tampons aux rodateurs, aux infirmières, donc ils pouvaient tamponner leur registre quand elles arrivaient, signer pour montrer qu'elles étaient venues, puis quand elles repartaient, tamponner, signer. Et ce registre permettait donc de vérifier si elles avaient été présentes ou absentes. Elle s'exposait à des sanctions qui n'étaient pas extrêmement précises si elle ne venait pas. Enfin, il leur a été dit que maintenant, on vérifierait si elle viendrait et si elle ne venait pas, elle serait sanctionnée. Donc, ce système a été mis en place à toute petite échelle, dans 33 sous-centres, et nous sommes mis en collaboration avec le district pour vérifier si le système marchait en allant voir de temps en temps si le centre était effectivement ouvert ou fermé. Et voilà ce que nous avons constaté dans ces visites inopinées. Concentrons-nous sur les traits en pointillés qui sont la présence le lundi. Les autres jours, effectivement, comme il n'y a pas de contrôle, la présence est plus faible. Donc, présence le lundi, dans les centres où les infirmières ont été surveillées de près, on voit qu'au départ, effectivement, il y a une très forte amélioration de leur présence par rapport à ce qui se passait dans les autres centres. Mais au fur et à mesure, donc les premiers 6 mois, effectivement, le programme marche très très bien. Mais à peu près au bout de 6 mois, on commence à constater une baisse de la fréquentation, une baisse de la présence dans les centres où ce monitoring régulier a lieu, alors qu'il y a plutôt une augmentation dans le groupe où il n'y a pas de monitoring régulier, si bien qu'à la fin, la présence est encore plus faible dans les groupes où le monitoring régulier a lieu. Alors, comment expliquer ce qui s'est passé? Eh bien, sur le point de vue purement pratique, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Ces données viennent des registres remplis par les infirmières. Donc les registres, si elles sont là et qu'elles ont signé 2 fois, elles sont là. Si elles ne sont pas là, elles sont soit marquées absentes, c'est ce qu'on a sur c'est le blanc. Donc si elles sont là, c'est le bleu. On voit que leur présence diminue au cours du temps. Si elles sont absentes, c'est le blanc. On voit que ça reste à peu près constant. Ou le gris, qui est qu'elles ont décidé de prendre un jour de vacances, ça reste aussi à peu près constant. Et le reste, c'est le rouge. Et le rouge, c'est fait de 2 choses. D'une part, la machine est cassée. Elles n'ont pas traité les machines le mieux possible, je pense. Mais surtout, de manière plus intéressante, le nombre de jours exemptés. Le nombre de jours exemptés, c'est quand elles écrivent sur leur registre. J'ai une excuse valide, par exemple, je vais à une réunion ou je vais à une formation, et que leur supérieur hiérarchique approuve cette excuse valide. Or, comme c'était le lundi, où tout le monde s'était mis d'accord que le lundi, elles doivent être dans leur centre, il n'y a pas d'autres activités, ça va les vérifier. En fait, aucune de ces formations, etc., n'ont eu lieu. Donc, elles sont fictives. Mais ce qui est intéressant, c'est que les supérieurs hiérarchiques ont jugé bon de valider ces excuses. Donc, un système qui a été mis en place par l'administration du district a été détourné de l'intérieur par la même administration du district. Et on parle de l'Inde, qui est un pays qui est parfaitement démocratique, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est... Comment on interprète ce genre de choses? D'une part, il y a quelque chose qui est... Ce programme, c'est un programme qui a été annoncé, les gens étaient au courant, etc. On peut se demander pourquoi les gens ne sont pas allés protester, On leur a dit que maintenant, le lundi, ils pouvaient aller au centre, qu'il serait ouvert de manière régulière. Il n'est pas du tout ouvert de manière régulière. Pourquoi les gens n'ont pas protesté? La raison pour laquelle les gens n'ont pas protesté, c'est qu'ils ne sont pas revenus vers ces centres du tout. C'est-à-dire, même quand les centres étaient ouverts de manière régulière, ils ont continué à aller voir leurs soignants habituels, sans doute parce que, soit parce qu'ils ne faisaient pas entièrement confiance à la pérennité du programme, sans quoi ils n'avaient pas tort, soit parce que ils avaient déjà, ils étaient contents de ce qu'ils recevaient ailleurs, même si c'était de type de traitement comme un jour d'antibiotiques, ce qui est effectivement pas du tout idéal du point de vue de la santé publique. Première chose. Deuxième chose, la raison pour laquelle la deuxième chose qui doit nous poser question, c'est pourquoi les superviseurs ont jugé bon de s'allier avec les infirmiers. Et une raison possible ici, c'est que les superviseurs ont jugé que ce n'était pas raisonnable de demander aux infirmières de venir le lundi, qu'elles ne pouvaient pas vraiment le faire, etc. Et on peut se dire, c'est quand même, ça ne paraît pas si déraisonnable de leur demander d'être dans leur centre de santé le lundi, de venir et de rester dans leur centre de santé une fois par semaine, quand elles sont quand même payées pour le faire 6 fois par semaine. Et donc, il faut se demander pourquoi c'est un équilibre qui peut tenir. Et je pense que la raison, c'est que c'est effectivement tout à fait raisonnable de leur demander de venir dans leur centre le lundi, mais ce qui n'est pas raisonnable, c'est l'ensemble de leurs obligations, si j'ose dire, légales, en principe, ce que doit faire une infirmière. Je le disais, elles sont bien payées, donc ce n'est pas un problème de « elles ne sont pas assez bien payées pour faire leur travail », elles sont bien payées. Mais ce qu'on leur demande, en principe, en droit, c'est tout simplement pas réalisable. Elles doivent être en principe dans leur centre, elles doivent arriver dans leur centre à 8 heures. Et comme c'est des gens qui sont éduqués, elles veulent vivre en ville pour que leurs enfants puissent aller à l'école, donc elles habitent à 2 heures du centre, donc ça veut dire 2 heures de bus, donc 8 heures du matin, c'est quand même très tôt. Ensuite, elles doivent être de 8 heures à 5 heures du matin dans leur centre, puis repartir. Et entre 8h et 5h, quand c'est pas le lundi, elles sont censées non seulement être dans leur centre et s'occuper des gens qui viennent, elles sont seules, mais en plus, elles sont censées faire des tournées dans le village pour convaincre les gens de se faire vacciner, et en Inde, de se faire stériliser, qui est quelque chose qui est extrêmement impopulaire auprès des gens. Elles doivent faire ça donc à pied, dans le soleil, etc. Et c'est pas quelque chose qui est vraiment faisable. Et donc, c'est un système qui a été pensé si les infirmières étaient des gens absolument, étaient toutes des mères Teresa, ce serait un système qui serait absolument parfait, où il y aurait un rapport constant entre les gens et les infirmières, etc. Si les gens eux-mêmes étaient tous des pauvres idéaux qui comprennent complètement l'intérêt de la vaccination, etc., ce serait également parfait. Or, les gens sont ce qu'ils sont, comme nous tous. Les infirmières sont ce qu'elles sont, comme nous tous. Et donc, c'est un système qui, pour des gens normaux et des infirmières normales, simplement n'est pas conçu pour pouvoir fonctionner. Et quand on a un programme qui est conçu comme ça pour des gens idéaux, dans un pays idéal, dans une espèce de rêve, de chimère technocratique, quelque part très très loin des réalités du terrain, ce système est mis en place ici, donc c'est le côté idéologie et ignorance, ne peut pas être appliqué. Mais quand le système officiel ne peut pas être appliqué, qu'est-ce qui reste? Il ne reste rien du tout. Il reste que les gens se font leur propre loi. Effectivement, à partir du moment où elles se font leur propre loi, elles se la font de la manière qui les arrange le plus. Et donc, quand les règles officielles telles qu'elles existent ne sont pas réalistes, on sait qu'on est à l'intérieur quelque part, et il se trouve que là, on est à l'intérieur avec un effort vraiment absolument minimum. Donc, j'ai choisi cet exemple pour illustrer donc, le fait que souvent, un système devient complètement moribond, comme c'est le cas du système de santé primaire en Inde, pas parce qu'il y a des mauvaises volontés ou que ce soit, mais parce que le système lui-même était mal conçu dès le départ. Et que donc, trouver des moyens d'avoir un système de santé, d'avoir un système de santé en particulier d'accès aux soins préventifs qui soit réalisable en pratique sur le terrain, ça demanderait de complètement remettre en place ce système. Or, qu'est-ce qu'on voit dans le gouvernement quelle est la politique aujourd'hui en Inde pour la politique de santé? C'est de dépenser beaucoup plus d'argent dans les soins, pour les soins préventifs et les soins primaires, ce qui est une bonne idée, mais de le faire, de quelle manière de le faire, en mettant plus d'argent dans ces centres. Ce qui semble ne faire aucun sens. Donc ce qui est un exemple qui montre qu'il y a d'énormes gâchis possibles à l'intérieur de systèmes qui par ailleurs sont plutôt bienveillants, et que ces gâchis viennent plutôt d'un défaut de réflexion que d'autres choses. Troisième temps donc.